Chapitre 21. La vie triomphera, la vie triomphera, la vie triomphera sous toutes ses formes. Célébrons le triomphe de la vie. Que s'ouvrent les conques, que se tendent les soacras, que coulent les flots féconds, que se mêlent les soleils et les lunes, que s'unissent la nuit et le jour. La vie triomphera, la vie triomphera. Célébrons le triomphe de la vie. La vieillesse appartient à la vie. La maladie appartient à la vie. La mort appartient à la vie. La vie appartient à la vie. Que germent les gamètes, que bourgeonnent les ventres, que se développent les pousses, que naissent les enfants. Célébrons le triomphe de la vie. Le triomphe de la vie. Le triomphe de la vie. Cérémonie de célébration de la vie, Aven de Bawalo, enregistrement audiophonique d'Ectus Bar, traduction de Messaoudine Joupiette. Saisi de folie, insensible à la douleur comme possédé, les interliciers se mordaient, se griffaient, s'arrachaient des lambeaux entiers de peau. Plusieurs d'entre eux s'étaient eux-mêmes émasculés à l'aide d'une pierre, et le sang sourdait en abondance entre leurs jambes. Même cette automutilation ne semblait pas suffisante, et ils continuaient de s'acharner sur leur propre corps, sur leurs bras, sur leurs torses, sur leurs visages, avec une férocité inouïe. Les tropicaux, hommes, femmes, enfants, disposés en cercle autour d'eux, les encourageaient à s'écharper en poussant des glapissements stridents. Les ruisseaux empourprés se déversaient dans grands nègres. Et les poissons, attirés par l'odeur et la couleur du sang, par les éclats de chair qui tombaient en pluie dans l'eau trouble, se rassemblaient près de la rive pour participer à la curée.
« Vous ne pouvez rien faire pour interrompre cette horreur ?»
demanda Fikit livide. Les glapissements incessants des Bawalos l'avaient contrainte à hurler. Le poids de Yel lui tétanisait les muscles des bras. « Ils les ont enduits d'une substance végétale spéciale, » répondit Ectus Bar, « un poison qui s'infiltre par les pores de la peau et qui atteint les centres nerveux. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne seront pas morts. Les tropicaux appellent cela « Moe Toi Ajumbe », l'abominable mort qu'on se donne soi-même. C'est ici la pire des fins, le sort réservé aux lâches, aux traîtres ou aux étrangers qui violent les coutumes. » Le cardinal s'est lui-même condamné à mort en repoussant cette femme de manière aussi brutale.
Pourquoi ne s'en prennent-ils pas à nous?
Ils ne savaient même pas que vous étiez là. Ils n'ont pas d'idée préconçue sur vous.
Vous parlez comme s'ils étaient encore capables d'établir des distinctions.
Les tropicaux utilisent des sortilèges de contrôle cérébral. Ils se sont servis des interliciers comme de machines, comme de robots. Ils les ont d'abord programmés pour tuer Rouge Violet et ses amis, puis pour s'auto-détruire. Le pouvoir des plantes platoniennes est illimité. Les Skaïtes avaient disparu au pire moment pour le cardinal Kill et ses deux exarques. Mais les hommes d'église n'avaient pas eu le temps de s'en désoler. Les interliciers avaient fondu sur eux comme des fauves et les avaient taillés en pièces en quelques minutes. Ils ne s'étaient pas servis de leur onde mort. Ils les avaient dépecés à main nue. Ils leur avaient déchiré leurs vêtements, leur avaient crevé le ventre de leurs ongles et les avaient vidés de leurs intestins qu'ils avaient dévorés comme des animaux affamés. Le cardinal et les exarques avaient gigoté sur le sol en poussant des gémissements déchirants. Le missionnaire lui-même, leur corps religionnaire pourtant, avait semblé prendre un plaisir certain à se repaître de leur agonie. Les lèvres barbouillées d'excréments et de sang, les interliciers avaient ensuite fracassé à coups de pierre le crâne de leur supérieur hiérarchique. Puis, de plus en plus enragés, ils avaient commencé à s'auto-mutiler. San Francisco et Phoenix regardaient cet horrible spectacle d'un air détaché. Leur enfance et leur jeunesse avaient été marquées du sceau de la cruauté. Ils avaient contemplé pendant des années les corps amputés, figés par le froid, environnés d'un nuage pourpre, des hommes et des femmes coulés dans les piliers de glace du Torial. La nuit tombait peu à peu sur la veine de Bawalo, estompant les couleurs et les formes. Les tornades célestes se teintaient d'une subtile clarté qui variait du vert pâle au bleu sombre. Les fleurs des boug-boug s'ouvraient et libéraient des nuages pulvérulents dont les senteurs amères et âcres dominaient l'odeur plus lourde du sang. Les fougères photogènes s'illuminaient, restituaient la lumière accumulée tout au long du jour, et leurs branches ornaient les parois de la veine de festons entrelacés et dorés. Afikit examina le visage inexpressif de Yel, dont la pâleur de plus en plus prononcée tranchait violemment sur le fond d'obscurité. Le corindon de l'anneau mufial restait désespérément vitreux, opaque, comme s'il s'éteignait en même temps que la fillette. Des larmes glissèrent furtivement des yeux d'Afikit, tracèrent leur sillon brûlant sur ses joues. Elle n'avait pas pleuré pendant plus de 20 ans, parce que son père, Sri Alexou, l'avait éduquée dans le strict respect de l'étiquette syracusaine, et qu'elle avait longtemps considéré les démonstrations affectives comme des aveux de faiblesse. Mais elle avait l'impression que le destin prenait un malin plaisir à lui procurer des occasions de rattraper le temps perdu. « Vous pensez que les tropicaux pourraient guérir ma fille ?» demanda-t-elle au missionnaire. « Ils ont une telle maîtrise des plantes que c'est une possibilité, mais leurs réactions sont imprévisibles, souvent incompréhensibles pour un étranger, » répondit Hectus Bar. « J'ai beau les fréquenter depuis plus de 15 ans, je me trompe régulièrement sur leurs intentions. Mon surnom officiel est Blanc-Jaune, mais je m'appelle également Doma Buribe, l'homme qui ne devine presque rien. Cette boucherie devient insupportable. Voulez-vous vous reposer à l'intérieur de la mission ?» Des interliciers s'étaient effondrés au centre de l'arène formée par les tropicaux, mais même allongés sur le tapis d'herbes et de feuilles, même à demi immergés dans l'eau de Grand Niger, ils poursuivaient leur entreprise méthodique de mutilation, plantaient leurs dents dans leurs bras, déchiraient des quartiers entiers de chair, dénudaient peu à peu l'humérus. Le sang giclait par saccades des artères ou des veines sectionnées. Leurs visages impassibles, leurs yeux dépourvus d'expression, leurs gestes mécaniques, donnaient raison à Hectus Bar lorsqu'il parlait à leur propos de robots. Il y avait quelque chose d'inéluctable, d'implacable dans leur manière de se dépouiller de la vie. Les lueurs pâles des tornades gazeuses et des fougères photogènes se reflétaient fugitivement sur les peaux sombres des tropicaux, dont les cris assourdissants s'envolaient vers l'immense bouche de la veine.
« Ils ne vont pas se vexer si nous nous retirons ?» demanda Afikit. « Je ne le crois pas, mais vous avez raison, il vaut mieux s'en assurer, » répondit le missionnaire. Il se dirigea vers les anciens, hommes et femmes, qui se tenaient légèrement à l'écart de la multitude, comme si leur sagesse supposée les dispensait d'assister au supplice de l'abominable mort qu'on se donne soi-même. À l'issue d'un court conciliabule, il se tourna vers Afikit et d'un hochement de tête, lui signala que les anciens avaient donné leur assentiment. « Ils ont prononcé à votre propos les mots « Ohim Aleboi », précisa-t-il après qu'ils furent entrés dans le dispensaire de la mission et qu'Afikit eut délicatement posé Yel sur une couchette. « Ce qui signifie ?» Le missionnaire ouvrit la porte de l'armoire métallique, saisit une antique lampe magnétique et pressa le commutateur d'énergie. Une lumière ambrée inonda la pièce, révéla les clés de branchage, le sol de terre battue. Le missionnaire n'avait pas eu le courage de paver le sol de toutes les pièces de la mission. Quelques grandes noix creuses amoncelées au pied des couchettes. « Quelque chose comme une déesse tombée du ciel, » répondit Hectus Bar. « Pas vraiment une déesse d'ailleurs, mais plutôt un être de lumière. » Ou un être tombé de la lumière. Leur langue n'est pas plus facile à interpréter que leur comportement. Ils ont également parlé de l'orme Ua Idabo, pour désigner les Skaïtes d'Hyponeros. On pourrait traduire ça par les envoyés du Grand Noir, ou les messagers du Rien. Leur soudaine disparition n'a pas impressionné les villageois. Moi si, les habitants d'Hyponeros ont une façon très originale de prendre congé. « Vous connaissiez Malthus Akhtar ?» Agenouillé à côté de la banquette, Afikit caressait doucement le front glacé de Yel. Une intuition lui murmurait avec insistance que
la volatilisation d'Escaïte avait un lien avec Tixou. Lorsqu'elle pensait à lui, elle ressentait un grand froid. Elle avait la certitude qu'elle ne le reverrait jamais. Qu'avait voulu dire Yel lorsqu'elle avait prédit son retour avec un cœur vide dans une apparence d'homme? Jouissait-elle de toutes ses facultés mentales au moment où elle avait proféré ces terribles mots? Pas vraiment. Mes deux amis Gersal et Mine, ma fille et moi étions cryogénisés et...
Les quatre cryos du palais épiscopal? S'exclama le missionnaire. Un de mes condisciples m'a parlé de cette histoire à l'occasion d'un séjour à Daoukar. Vous êtes Naya Fikit?
Afikit Alexou. Mais je crois que certains m'appellent effectivement Naya Fikit. Lorsque nous avons été ranimés, Malthus Akhtar nous a guidés jusqu'au déromate de l'atelier de réparation du palais épiscopal. Le moufti de l'église et lui auraient dû se rematérialiser quelques minutes après nous.
Qu'est-ce qui aurait pu les empêcher de se transférer?
Le palais était à feu et à sang. Ils ont peut-être été surpris par des mercenaires de Prithiv.
Ainsi donc, ce n'était pas une simple rumeur. Les forces impériales ont pris le palais épiscopal d'assaut. Les cardinaux et les vicaires voulaient la peau du marquis Nathol, mais nous ne savons pas s'ils l'ont obtenue.
Marquis Nathol.
Le marquis Nathan, le Paritol, Barophile le 25e. Je le prenais pour une crapule comme son prédécesseur, mais vos paroles éclairent son caractère sous un jour nouveau et m'obligent à modifier mon point de vue. Et je comprends un peu mieux le dévouement fanatique de mon complanétaire Malthus Akhtar pour le successeur du 24. Les cris des tropicaux transperçaient les minces cloisons végétales et le toit de chaume. La pâleur de Yel était telle qu'Afikit crut pendant quelques secondes qu'elle était morte. Elle posa le pouce et l'index sur son cou, pressa la veine jugulaire, perçut la très faible palpitation de son cœur.
« Elle ne résistera pas longtemps, »
souffla la jeune femme, le désespoir dans l'âme. San Francisco et Phoenix s'introduisirent à leur tour dans le dispensaire. L'épouvante déformait leurs traits habituellement indéchiffrables.
Ma tête me dit que ces gens ont totalement perdu la leur,
gronda San Francisco d'un ton indigné.
Ils se sont précipités sur les cadavres des interliciers, les ont coupés en petits morceaux et les ont distribués à l'assistance.
Ils nous en ont offert pour que nous les mangions, ajouta Phoenix.
Notre tête nous a conseillé d'accepter, pour ne pas aller à l'encontre de leurs coutumes, mais notre cœur se révulse à l'idée de manger de la chair humaine.
Elle ouvrit la main, laissa échapper un petit morceau de viande sanguinolent qui tomba sur la terre battue dans un bruit mat. Des gouttelettes pourpres souillaient son ample manteau blanc, ainsi d'ailleurs que la cape de San Francisco.
Cette coutume m'a également paru répugnante lorsque je suis arrivé à la mission,
dit Hectus Bar, rompant un silence qui commençait à devenir pesant.
J'ai fini par m'y habituer. C'est d'ailleurs davantage qu'une simple accoutumance. J'ai moi-même consommé de la chair humaine avec plaisir lorsque j'ai compris la signification, la beauté de ce rituel.
Ma tête et mon cœur aimeraient également comprendre la beauté de l'anthropophagie,
déclara San Francisco. Comme Phoenix quelques secondes plus tôt, il ouvrit la main et lâcha un carré blanc et rouge, un cube de viande et de peau qui roula au pied d'une couchette.
Les tropicaux pensent qu'en mangeant la chair de ceux qu'ils ont condamnés à la mort qu'on se donne à soi-même, ils prennent sur eux une part de leur destinée, une part de leur souffrance, reprit le missionnaire. Il leur évite d'errer sans fin dans les mondes des âmes damnées. Ils estiment également que cette ingestion les dispensera de tomber dans les mêmes travers, de commettre les mêmes erreurs. Une forme de mithridatisation. Chacun des habitants de Bawalo, hommes, femmes et enfants, absorbe une quantité infime de ce poison spirituel qui a valu à ces hommes, aux interliciers, aux cardinals, aux exarques, leur condamnation à Moé Toi Ajumbe.
La beauté de cette tradition échappe à ma tête,
lâcha Phoenix entre ses lèvres serrées.
Ectusbar se rendit près de l'armoire dont il ouvrit les portes en un geste empreint de solennité, révélant les rangées bien ordonnées, le seul endroit où il y ait eu un peu d'ordre à l'intérieur de la mission, de livres-films, de fichiers mobiles et de messacodes. J'ai accumulé les notes, les reportages au lot et les enregistrements pendant 15 années. J'ai répertorié plus de 200 rites différents qui couvrent tous les événements de l'existence tropicale, funérailles, mariages, naissances, batailles, et aucun d'eux ne m'a laissé indifférent. Que ce soit sous une forme ou sous une autre, étonnement, émerveillement, répugnance, ces rituels ont démantelé mes défenses rationnelles de Kreutziens et d'Osgorites, bâties par des siècles et des siècles de dogmes religieux ou scientifiques. Ils m'ont appris à voir autrement. Dans le cas du cannibalisme, ils m'ont enseigné le pardon. Manger la chair de l'homme Moetoi Ajumbe, ce n'est pas seulement l'absoudre de ses fautes en acceptant de le recevoir dans son propre corps, c'est également reconnaître que personne n'est à l'abri d'un égarement. Le poison végétal dont sont enduits ces malheureux ne fait pas courir un risque à ceux qui les mangent ? Demanda Afikit. Chacun en intègre une trop faible quantité pour en subir les funestes effets. Il y a toutefois certaines conséquences secondaires, comme des prurites désagréables, des accès de sudation visqueuse, nauséabondes, et pour l'homme, des érections douloureuses qui se prolongent pendant plus d'une semaine. Le regard fiévreux d'Ectusbar se posa sur les deux morceaux sanguinolents qui jonchaient le sol.
« Je ne supporte pas le gaspillage, » murmura-t-il d'une voix subitement rauque.
Il se dirigea vers le pied de la couchette, s'accroupit, chassa les insectes agglutinés, ramassa les deux morceaux de viande, les épousta du bout des doigts et, sans la moindre hésitation, les enfourna dans la bouche. Puis il se releva et, les yeux dans le vague, les mâcha avec un plaisir évident. Dehors, les vociférations des tropicaux s'étaient tues. Dans le silence restauré, troublé seulement par les bourdonnements des insectes, les bruits de mastication et de déglutition du missionnaire prenaient une résonance singulière, horrifiante.
« Ma tête et mon cœur se demandent comment vous réussissez à concilier la religion du Kreutz et ce genre de pratique, » fit observer San Francisco.
« De cet accommodement dépend mon équilibre physique, mental et spirituel. » répondit Ectusbar tout en continuant de broyer son insolite nourriture. Je serais mort depuis longtemps si, par exemple, je m'étais obstiné à respecter mes vœux de chasteté. À mon tour de vous poser une question. La légende prétend que les guerriers du silence voyagent sur leurs pensées. Pourquoi en ce cas recourir aux déromates de la mission?
Ce fut Afikit qui, levant les yeux sur le missionnaire, répondit. Elle fut saisie d'une brève mais violente envie de lui faire cracher le détestable contenu de sa bouche.
San Francisco et Phoenix n'ont pas encore été initiés à l'antra.
Et vous? On dit que vous êtes l'un des derniers maîtres de la science indique.
J'estimais ne pas avoir récupéré suffisamment mes forces au sortir de la réanimation cryo. De plus, je ne souhaitais pas être séparé de ma fille.
Vous affirmez être capable de voyager sur vos pensées en temps ordinaire?
Le transfert mental instantané n'est pas un but, seulement un moyen.
Les Skaïtes n'ont-ils pas employé le même procédé lorsqu'ils se sont volatilisés?
Nous ne savons rien, ou si peu sur les Skaïtes.
Elle pensa simultanément que Tixou était peut-être mort d'avoir tenté d'en apprendre davantage sur les envoyés d'Hipponeros. Elle fut recouverte par une nouvelle et puissante vague de désespoir.
Le transfert par la pensée est un phénomène inimaginable pour un esprit rationnel, ajouta le missionnaire. L'Église et la science officielle ont combattu cette idée avec un rare acharnement, car, de la même manière que les rituels des tropicaux, elle remet en cause la notion même de contrôle mental. Elle bouleverse totalement les règles du jeu.
Vous me prenez pour un fou, n'est-ce pas? Mais aux yeux de nombreux sujets de langue empire, vous êtes également des fous, des individus régis par d'inconcevables lois.
Gox,
s'exclama San Francisco. Il ajouta devant l'air ahuri d'Ectus Bar, « C'est ainsi que ceux de mon peuple appelaient les autres races de l'univers. Ma tête se rend à présent compte qu'on pourrait traduire ce mot par « fou ». »
Il sentit une présence dans son dos, s'interrompit et se retourna. Quatre tropicaux anciens, deux hommes et deux femmes, s'étaient subrepticement glissés dans le dispensaire. La lumière de la lampe accentuait leurs rides, les flétrissures de leur peau, les reliefs saillants de leurs os, teintaient d'ambre leurs longues chevelures blanches et leurs toisons pubiennes clairsemées. Contrairement à la plupart des femmes des autres peuples de l'univers, les seins des tropicales ne s'affaissaient pas avec l'âge. Dès leur puberté, elles les recouvraient régulièrement d'un onguent végétal qui leur conservait toute leur fermeté et leur donnait à la longue une subtile couleur verte. Elles ne cessaient ce traitement que lors des périodes de menstruation ou d'allaitement. Les hommes entretenaient leur verdeur à l'aide de préparations analogues. Le missionnaire les utilisait d'ailleurs en abondance, et ils pouvaient participer de manière active aux fêtes de la fécondité jusqu'au moment de leur mort. Il arrivait souvent que des anciens passent de vie à trépas dans les bras d'une femme. Cette façon de quitter le monde des vivants était l'une des plus recherchées dans les avènes platoniens, car, selon les croyances locales, elle assurait aux défunts une éternité de délices. Le missionnaire s'inclina et s'approcha des anciens avec lesquels il entama un conciliabule. Il lançait des regards fréquents en direction d'Afikit et de Yel. Il n'y avait aucune trace d'hostilité dans leurs yeux, seulement des lueurs de crainte, d'admiration et de respect. « Ils acceptent de soigner votre fille, » fit le missionnaire avec un large sourire. « Ils sont déjà en train d'organiser une cérémonie de célébration de la vie, mais ils disent qu'ils apporteront seulement la force des plantes, que sa guérison dépendra d'elle et de vous. Vous êtes, vous, votre fille et vos deux amis, des Ohim Aleboi, des êtres tombés de la lumière, et vous seuls pouvez décider de votre avenir. Ils seront les instruments, vous resterez les musiciens. À titre personnel, je préfère cependant vous prévenir que cette cérémonie n'est pas anodine. Si votre envie de vivre n'est pas assez forte, les plantes vous emporteront. » Afikit se redressa, fixa intensément les quatre anciens, puis désigna Yel d'un geste du bras.
« C'est pour elle que je dois vivre, » articula-t-elle lentement.
« Les tropicaux vous rétorqueraient que le devoir n'est pas l'envie, et que l'envie ne concerne que soi-même.
L'envie m'a quitté. L'homme que j'aime est parti pour toujours. Il est peut-être parti parce que l'envie vous avait quitté. »
Les iris perses et pailletés d'or d'Afikit perdirent soudain de leur éclat, s'éclaircirent, se diluèrent presque dans le blanc de ses yeux. Elle s'évertua à ne pas le montrer, à rester droite et fière, mais les paroles du missionnaire avaient rouvert une blessure profonde et douloureuse. L'envie l'avait quittée depuis qu'elle était née. Elle avait toujours été le témoin neutre et indifférent de sa propre existence, même lors des 16 années passées sur Terra Mater en compagnie de Tixou. Elle ne l'aurait pas laissé partir, sinon elle l'aurait aimé si fort qu'ils auraient ensemble défié et vaincu le Blouf. Tixou l'avait tiré des griffes des marchands d'esclaves de Point Rouge, l'avait délivré du virus Randu, mais elle s'était débrouillée pour retomber entre les mains des forces impériales et sombrer dans l'inconscience pendant plus de 3 ans. Elle était une étoile morte, incapable de rayonner, de transmettre sa lumière, son énergie au monde qui gravitait autour d'elle. Sa fille s'en allait à son tour parce qu'elle n'avait pas su lui donner l'envie. Depuis le départ de Tixou, seul Jack Atskin avait été capable de réchauffer le cœur glacé de Yel. Les jambes de la jeune femme flageolèrent, mais elle refusa de se laisser tomber, de leur donner sa faiblesse en pâture.
« Je suis prête, » dit-elle d'une voix ferme.
Des fougères photogènes, beaucoup plus grandes que celles de la veine, dispensaient un éclairage qui, bien que soutenu, ne parvenait pas à cerner les limites de l'immense grotte.
les colonnes blêmes, ventrues, obèses des stalagmites, les pointes effilées des stalactites, les formes torturées des parois, donnaient à l'ensemble un aspect étrange, baroque. Le grondement du torrent souterrain se faisait assourdissant. Les Bawaloos s'étaient rassemblés silencieusement autour de la pierre de vie, une pierre surélevée en forme de vulve sur laquelle reposait Yel, entièrement nue. Avant de la hisser sur la roche, deux femmes l'avaient d'abord enduite d'une pommade nauséabonde qui avait assombri la blancheur de sa peau. De loin, elle donnait l'impression d'être l'héroïne d'une cérémonie funéraire. Le corps dont Julien avait pris une teinte franchement noire. Des mains agrippèrent le surplis d'Afikit qui se recula d'un pas.
« Laissez-les faire, » intervint le missionnaire. « Les tropicaux considèrent les vêtements comme des entraves à l'action des plantes. N'ayez aucune crainte, la pudeur n'a jamais été invitée aux cérémonies occultes de Bawalo. »
Dès lors, elle se laissa déshabiller sans regimber. Les femmes l'entraînèrent au pied de la pierre de vie et, puisant régulièrement dans une large conque, étalèrent sur sa peau la même pommade odorante qu'elles avaient employée pour Yel. La fraîcheur de la grotte et la viscosité de la substance la firent frissonner. Elle ne protesta pas lorsque les mains des femmes s'insinuèrent entre ses cuisses et insistèrent sur le repli de ses nymphes. De temps à autre, elles s'interrompaient dans leur besogne, la dévisageaient avec ardeur et prononçaient quelques mots dans leur langue chantante. Elles lui appliquèrent la pommade sur le cou, le visage et le sommet de la tête. Leurs doigts s'attardaient sur sa chevelure dont la souplesse, la douceur et les reflets d'or semblaient les fasciner. Lorsqu'elles eurent achevé leur tâche, elles se retirèrent et la laissèrent seule à côté de la pierre. En séchant, la substance se durcissait et formait une croûte dure qui ne facilitait pas les mouvements. Afikit ne ressentit rien d'autre que cette gêne dans un premier temps. Puis une chaleur intense lui irradia le bassin, se diffusa dans son corps et des aiguillons enflammés lui lacérèrent le crâne, la poitrine et le ventre. La douleur fut tellement vive que ses jambes se dérobèrent sous elle et elle s'affaissa sur le sol. Elle entrevit, entre ses cils emperlés de larmes, les silhouettes brunes des tropicaux. Ils commençaient à se balancer d'un côté sur l'autre, dans un synchronisme parfait. Ils marmonnaient une suite de sons, un murmure chanté que couvrait le grondement du torrent. Elle aperçut au milieu des autochtones la silhouette plus grande et claire du missionnaire. Ayant retiré ses vêtements, il chantait et se balançait en cadence avec ses ouailles de Bawalo. San Francisco et Phoenix, enlacés, se tenaient légèrement à l'écart, près du toré ventru et jaunâtre d'un stalagmite. Afikit roula sur elle-même pour tenter de soulager la douleur, mais elle ne réussit qu'à s'écorcher le dos, les épaules et les fesses. Elle avait l'impression de s'être immergée dans un torrent de lave en fusion. Elle se demanda comment Yel réagissait à cette effroyable chaleur. La pensée l'effleura que les suppliciés enduraient le même calvaire sur les croix de feu creusiennes. Elle leva les yeux vers le sommet de la pierre de vie. Elle poussa un long hurlement lorsqu'elle aperçut un squelette en lieu et place de sa fille. Les tropicaux se balançaient de plus en plus vite, sans pour autant perdre le synchronisme de leurs mouvements, et leur chant grave syncopé dominait le grondement du torrent. Une rage meurtrière venue des tréfonds d'elle-même s'empara d'Afikit. De sa fille, de sa petite merveille, il ne restait que des os déjà blanchis, l'anneau du moufti de l'église et quelques fils d'or de sa chevelure. Et ces horribles tropicaux et leurs missionnaires, ces mangeurs de chair humaine, l'avaient empoisonnée avec leurs herbes macérées. Elle oublia la souffrance, saisit une pierre aux arêtes tranchantes, se releva et fondit en hurlant sur les premiers rangs des villageois. Ils ne s'écartèrent pas, ils continuèrent de psalmodier, de se trémousser en cadence. De toutes ses forces, Afikit abattit la pierre sur le front d'une femme. Bien qu'ébranlée par le choc, la tropicale ne fléchit pas. Du dos de la main, elle essuya tranquillement le filet carmin qui s'écoulait de la plaie. Folle de rage, Afikit la frappa à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle plie,
jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Elle se rendit compte que c'était la première fois de son existence qu'elle levait la main sur quelqu'un et, curieusement, elle n'en éprouva aucun remords. Il lui sembla que les tropicaux se resserraient sur elle, comme une horde d'animaux féroces. Inquiète, elle chercha San Francisco et Phoenix du regard, mais les deux Gersalémines avaient disparu. Ne se trouvaient plus en tout cas à l'endroit où ils s'étaient tenus quelques minutes plus tôt. Quant à Hectus Bar, elle n'avait aucune aide à attendre de sa part. Ses yeux révulsés et le mouvement lancinant de son corps, sa bouche écumante montrait qu'il était sous l'emprise de l'hypnose collective des Bawalos. La peau d'Afikit fut soudain parcourue de démangeaisons virulentes, ardentes. Elle lâcha la pierre, passa frénétiquement les mains sur son corps comme pour extirper ce feu qui la rongeait. Mais loin de l'apaiser, ses effleurements ne réussirent qu'à aviver la sensation de brûlure. Elle s'écroula, se recroquevilla sur le sol comme une feuille de papier léchée par une flamme. Du fond de son puits de douleur, il lui sembla comprendre les paroles du chant des tropicaux. « La vie triomphera, la vie triomphera. Célébrons la vie sous toutes ses formes. Célébrons le triomphe de la vie. » Elle perdit connaissance. Tixou est penché sur elle lorsqu'elle rouvre les yeux. Il lui sourit, auréolé de la lumière tamisée des fougères photogènes. Il n'a pas changé pendant ces 3 ans. Elle a même l'impression qu'il a rajeuni. Sa peau a pris une teinte légèrement grise qui évoque les fuselages des anciens vaisseaux. Elle redresse le buste, tend la main pour lui caresser le visage, mais son sourire se crispe, se transforme en rictus et il se dérobe. Elle tremble de froid. Elle voudrait qu'il s'étende sur elle, qu'il la couvre de sa chaleur. Mais il est enveloppé d'une invisible gangue de glace. Ses yeux gris-bleus brillent d'un éclat maléfique. Elle a l'impression, durant une fraction de seconde, de se trouver devant un skaït de l'Inquisition. Ce n'est pas le Tixou qu'elle a connu. Elle se souvient d'un homme empli de bonté, d'un homme à l'énergie duquel elle se frottait, elle se réchauffait, d'un amant attentif, d'un compagnon enjoué, d'un éternel enfant. Elle fait maintenant face à un être creux, dépourvu d'humanité. « Un cœur vide dans une apparence d'homme », avait dit Yel. Yel. Afikit observa la pierre de vie. Elle ne distingua que le sommet arrondi et grenu de la vulve minérale. Le squelette, le corindon julien, les cheveux d'or, avait disparu. Elle embrassa du regard l'ensemble de la grotte, ne vit ni les tropicaux, ni le missionnaire, ni San Francisco, ni Phoenix. Elle était seule avec Tixou, avec l'apparence humaine de Tixou. Elle ne souffrait plus, elle ne ressentait plus qu'une lassitude infinie, une lourdeur de ses membres rompus, un frémissement subtil au creux de ses nymphes, une nausée latente, une vague envie de s'allonger et de sombrer dans l'oubli du sommeil. Elle percevait toujours le chant de la célébration, dominant le grondement du torrent. La vie triomphera, la vie triomphera. Célébrons le triomphe de la vie. Ces paroles l'irritaient. Elle n'avait pas envie de vivre. L'hyponéros avait transformé Tixou en machine. Elle établit la relation entre le vide qui l'entourait et la dissolution soudaine des skaïtes. Il était l'hyponéros. Elle était désormais certaine que tous les skaïtes s'étaient retirés des mondes humains pour se rassembler dans le corps de l'homme qu'elle aimait. Sa puissance de destruction était au-delà de l'entendement. Le véritable Tixou était mort, Yel était morte. Elle n'avait plus qu'à se laisser mourir. Comme des doigts cruels arrachant un à un les pétales d'une fleur, le destin l'avait peu à peu dépouillée de ses raisons de vivre. Elle contempla une dernière fois Tixou, tenta de déceler dans ses yeux une infime trace d'humanité. Il esquissa un sourire mécanique, un sourire de machine qui évoquait davantage le rictus d'un prédateur qu'un signal de connivence. Elle avait définitivement échoué. Elle se releva, grimpa sur la pierre de vie, s'y allongea, ferma les yeux et attendit que la mort vienne la chercher. Le destin, vraiment? Qui décidait pour elle? Elle avait le choix en cet instant précis. Le sort, la destinée n'étaient que des mots pratiques pour abdiquer de la vie. Elle avait reproduit le schéma comportemental de son père, Sri Alexou. Il s'était absorbé dans l'art floral pour oublier son épouse. Elle avait confirmé l'échec des trois derniers maîtres de la science indique. L'échec de Sri Alexou, qui s'était renié dans le souvenir d'une femme disparue. L'échec de Sri Mitsu, qui s'était étourdi dans les sens. L'échec du Madi Sekoram, qui n'avait pas su préserver la pureté de l'enseignement absurate. Elle s'était réfugiée dans l'amour de Tixou comme une chenille de feu dans le ventre du Xaxas, comme un parasite. Que lui avait-elle donné en échange? Yel? C'était un cadeau mutuel qu'il s'était fait. Le bonheur? Elle n'était pas douée pour le bonheur. Les paroles d'Ectusbar l'avaient blessée dans le dispensaire de la mission parce qu'elle n'avait été que l'expression de la pure vérité, de l'amère vérité, de la terrible vérité. Il était parti parce que l'envie l'avait quitté. Il avait eu le choix, bien sûr, comme tout le monde, mais un amour fort, indéfectible, rayonnant lui aurait proposé d'autres solutions, d'autres routes. Elle ne l'avait jamais aimé. Elle s'était aimée à travers lui. Et comme il n'était plus là pour lui servir de miroir, la mort lui paraissait la seule issue envisageable. L'envie ne concerne que soi-même, avait dit le missionnaire. Avait-elle envie de s'aimer elle-même, pour ce qu'elle était? Avait-elle le désir sincère de devenir cet astre souverain rayonnant, qui arroserait d'énergie les mondes gravitant autour d'elle, qui arroserait Yel d'une véritable tendresse? Une vibration assourdie résonna dans son silence intérieur. L'antra, le son de vie manifestait sa présence, la reliait au cœur de la création. Elle était de nouveau une étincelle parmi les étincelles, une étoile parmi les étoiles. Elle rouvrit les yeux. Debout au pied de la pierre, Tixou la regardait fixement, comme s'il guettait sa décision. Elle lui donnerait le baiser de l'humanité. Elle l'aimerait si fort qu'elle l'arracherait des griffes de l'Hyponéros, comme il l'avait arraché des griffes des marchands d'esclaves. Il redeviendrait un être libre, souverain, un être tombé de la lumière. Son visage n'exprima aucune émotion, mais Afikit eut l'impression de distinguer un éclair de compréhension dans ses yeux. Il se fondit subitement dans la pénombre de la grotte, que la clarté faiblissante des fougères photogènes n'éclairait plus qu'avec parcimonie. La vie triomphera, la vie triomphera. Célébrons le triomphe de la vie. Les corps en sueur des Bawalaos ondulaient comme des vagues sombres et luisantes. Afikit, allongée sur la pierre de vie, sentit une présence à ses côtés. Elle tourna la tête et se rendit compte que Yel, redressée sur un coude, observait avec attention les danseurs. À sa main droite, l'énorme corindon Julien brillait de mille feux.
Ne vous inquiétez pas, vous avez cogné avec beaucoup de conviction. « Mais elle est simplement sonnée, » dit Ectusbar. « Elle s'en remettra. »
Le front de la tropicale allongée sur le sol s'ornait d'une large corolle pourpre. De temps à autre, un long tremblement secouait ses membres inertes. Penché sur elle, un homme lui entr'ouvrait les lèvres et la forçait à ingurgiter quelques gouttes d'un liquide doré qu'il versait d'une grande noix creuse.
Elle sera même honorée d'avoir été choisie, reprit le missionnaire. Elle aura le sentiment d'avoir contribué davantage que les autres à la résurrection de votre fille. À votre résurrection. Vous ne voulez vraiment pas rester? La fête vient tout juste de commencer. Les cris et les rires se répercutaient sur les parois et la voûte de la grotte. Les tropicaux s'abreuvaient aux grandes noix et aux conques nacrées qui volaient de main en main. La boisson, un ferment de plaisir selon le missionnaire, dégoulinait sur les mentons, sur les poitrines, sur les ventres. Les enfants grimpaient sur les stalagmites, se suspendaient aux stalactites, retombaient en souplesse sur le sol en poussant des hurlements de joie. Un feu d'herbe sèche brûlait au pied de la pierre de vie et ses éclats d'encens supplantaient la lumière mourante des fougères. La fumée qui s'en dégageait n'agressait ni les yeux ni les narines. Elle générait au contraire une douce euphorie qui allait en s'accentuant au fur et à mesure qu'elle s'épaississait. Afikit aperçut San Francisco et Phoenix au milieu des villageois. Aussi peu vêtus que leurs hôtes, ils n'étaient pas les derniers à rire, à boire et à danser. Quant au missionnaire, la tension révélatrice de son membre viril montrait qu'il s'était largement abreuvé à la source du ferment de plaisir.
« Yael et moi sommes fatigués, » répondit Afikit. « Nous avons besoin de nous reposer. »
Elle s'était revêtue du surplis blanc et avait passé la veste grise sur les épaules de Yael. Bien que le feu d'herbe réchauffât sensiblement l'atmosphère de la grotte, elle tremblait de froid. Le mouvement des corps en transe qui s'unissait parfois pour une brève et violente étreinte semblait subjuguer la fillette.
« Vous les remercierez pour moi, » poursuivit Afikit.
« L'envie vous est revenue, ils sont déjà remerciés. Quand comptez-vous partir ?»«
Le plus tôt possible, lorsque San Francisco et Phoenix nous rejoindront à la mission. Vous au moins, acceptez ma gratitude. »
« J'ai été honoré et fier de vous accueillir dans ma modeste mission, Naya Afikit. N'hésitez pas à vous installer dans ma chambre pour vous reposer. Je ne pense pas être rentré avant le zénith de Soakra. »
Il se détourna avec brusquerie et se dirigea à grands pas vers la tropicale, une ancienne qui l'attendait à côté de la pierre de vie. Avec une absence de culpabilité consternante pour un membre de l'église creudienne, il s'en allait rompre une nouvelle fois ses vœux de chasteté.
L'aube se levait sur Bawalo. Les chants des tropicaux n'étaient plus que des murmures improbables qui venaient s'échouer dans le silence matinal de la veine. Les insectes, engourdis par la fraîcheur, n'avaient pas encore pris leur envol. Les fleurs des buissons boug-boug déployaient leurs pétales écarlates imprégnés de rosée. Les rayons naissants de Soakra, encore invisibles dans le ciel, teintaient d'orange et d'ocre les ailes des dragons de feu. Main dans la main, Afikit et Yael traversèrent le village désert. Elles évitèrent de s'attarder aux abords de la crique de la mission. Si l'eau de Grand Niger avait recouvré sa limpidité initiale, les tropicaux n'avaient pas encore enlevé les restes des cadavres des interliciés et des hommes d'église. Yael contempla l'affreux spectacle d'un air interrogateur, mais elle ne posa aucune question. Elle n'avait rien dit depuis qu'elle était sortie de son coma, et Afikit se demandait si elle n'avait pas perdu l'usage de la parole. De temps à autre, la fillette levait la main droite vers la bouche de la veine et observait les subtils jeux de lumière dans le corindon julien. Elles longèrent la crique, choisirent pour se laver un endroit situé à l'écart, dissimulée par les frondaisons des fafaniers. Ce n'est que lorsqu'elles se furent allongées sur le lit du missionnaire que Yael prononça ses premiers mots.
« Je t'aiderai à délivrer papa du blouf. »
Afik se souleva sur un coude.
« Tu étais consciente pendant la cérémonie. »«
Quelle cérémonie ? J'ai seulement vu papa et le blouf à l'intérieur de lui. Il a besoin de nous, maman. »
Afikit enlaça sa fille et la tira contre sa poitrine. Pendant quelques minutes, elles restèrent blotties en silence l'une contre l'autre.
« Je suis tellement heureuse que tu sois vivante, » murmura Afikit.
« Toi aussi tu étais morte, maman, et papa, il devra mourir pour revenir à la vie. Maintenant, je veux que tu m'apprennes le voyage sur la pensée. »
« Dès que nous serons arrivés, je te le promets. »
La chaleur montait rapidement à l'intérieur de la mission. Les bourdonnements des insectes annonçaient l'avènement triomphal du jour. Le triomphe de la vie.
Assis au centre du terre-plein, indifférent à la pluie, Jake ressassait des pensées tourmentées. Phraciste Bog et l'ancien chevalier Absurat s'étaient transférés dans le volcan d'Exode quelques heures plus tôt, mais il était toujours sans nouvelles de Yel, de Nayafikit, de San Francisco et de Phoenix. Le chevalier Absurat s'était rematérialisé le premier. Jake avait reconnu d'emblée l'homme qu'il avait aperçu lors de ses expéditions mentales depuis le Naos des Analindiques. L'homme enfermé dans une masure avec une femme brune dont les yeux entièrement blancs voyaient au-delà de l'espace et du temps. Il s'était parfaitement souvenu de la scène, des tapis et des chaises de paille, des murs de torchis, de leurs paroles. « Tu es l'un des 12 piliers du temple. Je ne suis qu'un des salopards de Jankel Nanoufa. Je serai l'arc, tu seras la flèche. Les temps sont venus de l'union, de la fusion. Elle avait dégrafé sa robe, s'était glissée sous le drap écru, et il s'était aimé avec fureur comme Phoenix et San Francisco dans le cachot du Torial. « Vous êtes un chevalier, un ancien trafiquant des monts Piaï, un des 12 piliers du temple », avait dit Jake sans laisser le temps à son interlocuteur de se remettre de l'effet corrigé gloson. Allongé sur le terre-plein, le chevalier avait lutté contre les vertiges nauséeux qui le saisissaient, avait ouvert les yeux et cherché à savoir à qui appartenait la voix qui l'interpellait. « Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ?» avait continué Jake. « Personne ne vous a donné les coordonnées d'Exode ?» Même en faisant appel à l'énergie du Xui, Wu Fanli s'était avéré incapable de remettre de l'ordre dans ses pensées. L'apparition soudaine de Phraciste Bog l'avait tiré d'une situation difficile. Le garçon, dont les interrogations et la voix aigrelette lui faisaient l'effet d'une véritable torture, avait jeté son dévolu sur le nouvel arrivant et s'était provisoirement désintéressé de lui. Jake avait dû laisser les deux hommes récupérer de l'effet gloson et s'abstenir momentanément de leur poser les questions qui lui brûlaient les lèvres. Il s'était demandé pourquoi Phraciste Bog était revêtu d'une combinaison grise de mercenaire de Prithive. Lorsqu'il s'était quitté, il portait encore le col en cor blanc de son habit pontifical. Il n'avait pas compris non plus pourquoi l'ancien moufti était accompagné du chevalier, vêtu quant à lui d'une combinaison noire d'ovate. « Où sont Yel et les autres ?» avait-il demandé après avoir décelé un léger mieux sur le visage crispé de Phraciste Bog. « Ils ne sont pas avec nous », avait bredouillé ce dernier. « Nous n'avons pas pu utiliser les déromates du palais. Une coupure d'énergie magnétique. Les mercenaires ont surgi dans l'atelier. Malthus Attar est mort. Le chevalier Wu m'a sauvé la vie. » « Comment est-il arrivé dans le palais ? Il habitait loin de Syracuse, sur le monde des Abras et des Piaï. » Les Piaï sont des montagnes du sixième anneau de Sbarao, et les Abras, un ensemble de plateaux de ces montagnes, intervint Wu. Une vision m'a poussé à me rendre à Vénitia. Mais qui t'a révélé tous ces détails sur moi ?
Les Analindiques, répondit Jake. Le temple de lumière, précisa Phraciste Bog, qui avait surpris les lueurs interrogatives dans le regard de Wu.
Quant à Nayafikit et aux autres, je ne sais pas ce qui a pu leur arriver.
L'Andjorien avait accompagné les deux hommes jusqu'au village des pèlerins, les avait installés dans la maison de Nayafikit, leur avait servi un repas succinct composé principalement de fruits et d'eau, puis s'en était retourné au volcan. Il avait espéré apercevoir les chevelures dorées de Yel et de sa mère du haut du surplomb qui dominait l'ensemble du cratère. Mais, quelques centaines de mètres en contrebas, le terre-plein était toujours désert. Les nuages lourds et noirs avaient libéré une pluie fine et persistante, un crachin grisâtre qui noyait les environs dans sa désolation. Jake avait dévalé les escaliers en spirale, humides et glissantes. Les entrées des anciennes habitations troglodytiques se couvraient d'immenses toiles d'araignées, ondulant souplement sous les rafales de vent. Il s'était assis au centre du terre-plein. La pluie avait traversé sa tunique et son pantalon de lin. Il avait ressenti un énorme soulagement lorsqu'il avait retiré son col encore. Combien Pahatskin avait dû souffrir pour comprimer son gros ventre dans cette horrible prison de tissu. Le silence lugubre qui régnait à l'intérieur du volcan accentuait sa tristesse. Avant de partir pour Efren, Shari lui avait ordonné de rester sur Terra Mater pour accueillir Afikit, Yel et les autres, et il n'osait pas partir à leur recherche, d'une part pour ne pas transgresser les instructions de Shari, d'autre part pour ne pas risquer de les croiser et de manquer leur arrivée. Envahi par un sentiment grandissant d'impuissance et de désespoir, il ne lui restait rien d'autre à faire qu'à se morfondre dans ce cratère mort, qu'à contempler d'un œil morne la cicatrice rocheuse de l'ancienne cheminée.
« Jack !»
Il lui semblait avoir entendu une voix fluette prononcer son nom, mais il n'osa pas se retourner, de peur d'être déçu, préférant croire qu'il avait été le jouet d'une illusion sonore, à moins encore qu'il n'eût perçu le trompettement rauque d'un aïoul.
« Jack !»
Le cœur battant, il se retourna. Yel se trouvait à une dizaine de mètres de lui, vêtue de la veste grise qu'il avait portée sur Syracusa. Elle avait visiblement recouvré l'usage de ses jambes et de ses bras. Ses yeux gris-bleus brillaient joyeusement, ainsi que l'anneau épiscopal à sa main droite. Le crachin plaquait ses cheveux d'or sur son front, sur ses tempes, sur ses joues. Le large sourire qui illuminait son visage était dépourvu de sa coutumière ironie. Il entrevit derrière elle la silhouette de Phénix, enveloppée dans le manteau blanc de Shari. Allongée sur le sol du terre-plein, souffrant de l'effet corrigé glaison, elle remuait faiblement comme une chenille au sortir de son cocon. C'était son premier transfert cellulaire et, à en juger par ses yeux affolés, son souffle court et ses gémissements, ce décalage sournois entre ses perceptions et sa motricité la terrorisait. Jake souffrait lui aussi d'un curieux décalage. Une envie folle le pressait de se précipiter vers Yel, de la prendre dans ses bras, de la soulever du sol et de la faire tournoyer dans les airs. Mais son corps restait pétrifié, incapable d'esquisser le moindre geste. Ce fut donc elle qui vint vers lui, lui glissa les bras autour de la taille et posa doucement la tête sur sa poitrine. Ils étaient à peu près de la même taille lorsqu'elle avait été frappée par le rayon cryogénisant de l'arme de Marty. Il la dépassait de deux têtes à présent. Elle lui parut tellement fragile, il n'osa pas l'étreindre de peur de la broyer. Il lui effleura délicatement la joue du revers de la main. Il se rendit alors compte qu'elle pleurait, que ses larmes brûlantes traversaient sa tunique détrempée et réchauffaient sa peau humide et glacée. Ils restèrent enlacés en silence jusqu'à ce qu'Afikit et San Francisco se rematérialisent à proximité de Phénix, toujours terrassés par le mal des transferts. Afikit n'eut besoin que de quelques minutes pour rétablir la coordination entre son esprit et son corps, se relever, s'avancer vers Yel et Jack, les étreindre tous les deux. Elle avait l'impression de rentrer chez elle après un interminable voyage, de se réveiller à l'issue d'un long rêve. « Nous sommes tellement heureuses de te revoir, Jack. »
Nous vous rejoindrons plus tard, » insista Yel.
Lorsqu'elle prenait cet air buté, lorsqu'elle avait ce front plissé et cette moue provocante, rien ne pouvait la faire changer d'avis, d'autant que l'air penaud de Jack, qui la tenait par la main, trahissait une complicité tacite.
« Il pleut !»
argumenta Afikit tout en sachant que sa tentative se révélerait parfaitement inutile.
« Ma tête dit que le prince des Hyènes veut se retrouver seul quelques instants avec sa princesse, » dit San Francisco. « Et mon cœur l'approuve. »
« Le ciel également manifeste sa joie, »
ajouta Phénix avec un sourire là. Les deux Gersalémines ne s'étaient pas encore remis de la cérémonie de la pierre de vie, et le transfert avait accru leur fatigue. Ils n'avaient qu'une hâte,
s'allonger sur un lit et dormir. Les souvenirs qu'il gardait de la fin de la célébration demeuraient confus. Des sensations caressantes, des vagues puissantes qui les roulaient dans une mer houleuse de plaisir, des peaux d'une sensibilité exacerbée qui se frottaient, des bouches voluptueuses qui se cueillaient, des ventres lascifs qui s'ouvraient, des membres impétueux qui les comblaient.
Si tout le monde, même le ciel, est contre moi, je n'ai plus qu'à m'incliner, dit Afikit.
Nous ne serons pas longs,
cria Jek. Il avait déjà tiré Yel dans la végétation dense qui bordait le sentier. 30 minutes plus tard, ils atteignirent la rive du torrent, à l'endroit où ils s'étaient baignés la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Yel reconnut les lieux bien que les ronces, les herbes folles, les arbustes aient recouvert la plupart des rochers. La pluie n'avait pas cessé, bien au contraire. Elle tombait à présent encore d'épaisses et drues qui hérissaient la surface tumultueuse du torrent. Ils se déshabillèrent, abandonnèrent leurs vêtements sur l'herbe et, poussant des petits cris d'effroi, entrèrent dans l'eau jusqu'aux genoux. Comme 3 années plus tôt, Jek garda les mains crispées sur son bas-ventre. Le torrent colérique se pulvérisait sur les rochers, sur leurs jambes, sur les racines découvertes des arbres, projetait des gouttelettes glaciales sur leur peau.
« Tu peux te mettre à l'aise ?» lança Yel provocante. « Je sais comment c'est fait un garçon. »
Jek leva les bras au ciel d'un air désolé, et ils éclatèrent de rire. Yel vit alors qu'elle n'avait plus vraiment affaire à un garçon, mais presque à un homme.
« Avez-vous eu des nouvelles d'Adaman Mural ?»
demanda Phraciste Bog. Le feu de bois crépitait dans la cheminée de pierre devant laquelle Yel et Jek, frigorifiés, assis sur un banc, emmitouflés dans des couvertures de laine, essayaient de se réchauffer. Exténués, San Francisco et Phoenix s'étaient retirés pour se reposer. Wu avait longuement raconté son histoire, son désespoir de chevalier, ses 20 années passées au service d'un trafiquant de marchandises humaines du 6e anneau, sa rencontre avec Katiaï, Lima des Abraz, son départ pour Vénitia.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'un des deux déromates de Bawalo avait été utilisé quelques heures avant nous, répondit Afikit, accroupi devant la cheminée. L'affichage mémoriel de l'appareil indiquait la destination de Duptina, capitale de Markina.
L'humidité du bois n'avait pas facilité l'allumage du feu, et elle éventait régulièrement les braises à l'aide d'un carré de tissu. Une fumée noire et chuintante s'élevait des bûches détrempées.
« C'est bien, Adaman, » soupira Phraciste Bog. « Il est marquinatin comme moi. Il n'a pas su saisir la perche que le destin lui tendait. »
Personne ne lui a parlé des coordonnées terrestres d'Exode, dit Wu, attablé en face de l'ancien moufti. Il ne savait donc pas où nous rejoindre.
C'était son choix, n'est-ce pas, chevalier?
C'était son droit. Phraciste Bog se leva et rejoignit Afikit devant la cheminée. Il hésita un long moment, puis se décida à poser d'une voix timide la question qui le préoccupait.
Quand comptez-vous nous initier à l'antra?
Elle suspendit ses mouvements et leva les yeux sur l'homme d'église.
« Demain, vous devrez être prêt quand Shari reviendra. »